48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Magazine du mardi midi avec Valérie Lucas qui arrive en direct pour nos éditeurs qui n'ont pas l'image.
Voilà,
elle pose son blouson et donc on vit son arrivée en direct live, donc qui viendra nous parler.
C'est des gens très pris. Hein.
C'est des gens qui ont un emploi du temps très très pris. Donc bonjour Valérie, nous aurons aussi aujourd'hui Romain Vidal qui est accompagné d'Alexia qui va donc pour l'UDAF.
Oui, qui témoignera je crois tout à l'heure Alexia.
Et Alexia qui a beaucoup insisté pour pouvoir parler à l'antenne. Donc
voilà. Tu promis, battu,
Alexia, tu pourras bien dire quelque chose. Et donc avec Romain, nous allons parler du PIF, puisque on s'y connaît en PIF. À la radio, et donc le
il
PIF,
a du nez ce Romain,
il a du nez, le ouais. PIF, pour ceux qui sont pas complètement
dans... Il y avait le PAF, hein,
il y avait le PAF
aussi,
et voilà, et aujourd'hui ça sera PIF
et Hercule est malade,
et Hercule est malade, et donc le PIF, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le point info famille. Et donc nous terminerons avec madame Akmel Bourgade qui va nous parler de l'APEPS. Après le PIF, nous parlons de la PEPS, qui est l'association pour la promotion d'évaluation des pratiques et de la sécurité des soins. Voilà, donc des sujets pas forcément super drôles, mais en même temps, à la radio et à 48 FM, on aime la légèreté, et donc on va parler des choses sérieuses, mais avec légèreté. Et donc on démarre avec Romain.
Oui, Romain, c'est pas très galant. Hein.
Et son PIF.
Et son PIF. Et effectivement, c'est pas du tout galant,
oui.
Mais si Valérie Lucas est arrivée juste à l'arrache, Romain Vidal partira lui à l'arrache, donc
oui,
on lui donne...
Je me rends dans le Nord.
Dans le Grand Nord.
Dans le Nord.
Il va à Saint-Chély tenir une...
Permanence.
Une permanence, à la Maison de l'Emploi d'ailleurs,
oui.
Qu'on remercie pour son partenariat.
Formidable Maison de l'Emploi.
Romain, peux-tu nous dire sur ce point info famille ?
Bonjour. Donc oui, aujourd'hui, en fait, si on fait un petit feedback sur le point info famille, c'est parce que justement, le point info famille s'est ouvert au département et le but était déjà dans un premier point de dire que outre les permanences amendes, au jour d'aujourd'hui, on rayonne. Et je dis bien on rayonne sur Marvejols.
Avec le, froid qui fait rayonner, c'est toujours bien. Alors, excuse-moi, Marvejols.
Marvejols.
C'est pas facile à dire. Il faut demander ça à Valérie Lucas qui peut t'aider, qui connaît très bien le Marvejols.
Oui, oui. Langogne, Saint-Chély-d'Apché. Et ensuite, on aimerait s'ouvrir encore à d'autres départements.
Il y a Florac aussi, je crois.
Florac. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on s'est mis en place des... c'est très dissipé aujourd'hui. Hein. Oh là là,
mais c'est le temps, c'est l'hiver, on a envie
ça
de bavarder.
Ça sent la neige. Les enfants s'énervent, ça sent la neige.
Oh là là. On s'excuse.
Oui, oui, oui.
Alors vas-y, reprends.
Non, en fait, plus sérieusement, vu le nombre de contacts qu'on avait et le souhait de certaines personnes de me voir de visu...
Mais c'est ça.
On a dit, comme on est relais service public, ce serait sympa de pouvoir se servir des beaux locaux de la Maison de l'Emploi. Et au jour d'aujourd'hui, donc, on a la possibilité de faire ces permanences. Et ça a coïncidé donc, notamment avec la mise en place du nouveau service de microcrédit. Voilà.
Donc on a, si je comprends bien, l'UDAF, une offre de services qui...
Pléthore de services.
Qui continue à évoluer. Et en plus de l'offre de services, on a tout simplement des permanences en proximité. Donc on a de plus en plus de services et en plus, on les a maintenant en proximité.
Voilà, c'est ça. Le but était de se rapprocher de la personne qui souhaitait avoir l'information. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut articuler le service d'information aux familles en quatre points. Donc le point info famille, le parat... Le le parats, pardon, l'aide aux tuteurs familiaux. Et pour terminer, donc, la mise en place d'un microcrédit avec le groupe La Poste. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, les quatre offres principales. Et on a pour thème aussi, au jour d'aujourd'hui, de relancer un petit peu au niveau de notre réseau associatif. Et on met en place, d'ici la fin de l'année, des rendez-vous de l'info animés par votre serviteur. Et ce sera sur des thèmes divers et variés.
Et comment alors, ça par exemple, passe
oui, en gros, c'est le but, c'est au jour d'aujourd'hui, l'UDAF, c'est environ 25 associations. Encore une fois, le but étant de se rapprocher un petit peu plus des personnes. On se servira donc de notre réseau associatif et des locaux de ces associations pour faire des mini-conférences sur des thèmes bien précis. Ça pourrait être le mandat futur pour la tutelle, le microcrédit, on a pour parler pour la signature peut-être d'une convention avec EDF, donc des petites conventions, des petites conférences.
Avec des professionnels à chaque fois, ou est-ce que c'est...
Moi-même déjà.
Oui, hein oui et là on parlait de professionnels. Hein.
On parlait pas sérieux.
Hein, c'est pas parce que j'ai un gros pif que je ne suis pas sérieux. Et ce sera plus des compagnons du réseau, donc notamment dans je vous dis EDF... la deal, des choses comme ça. Peut-être Monsieur Dumortier, s'il veut m'accompagner.
Ah ben, ça sera avec grand plaisir. Hein
la maison ça fera deux gros pifs.
C'est ça.
Et voilà. Non, mais pour être sérieux, voilà. Au jour d'aujourd'hui, on a la capacité de se réorganiser un petit peu mieux. Nous, au niveau du service, c'est-à-dire qu'on a restructuré les choses pour une manière, on va dire, plus transversale. Et moi, c'est vrai que ça m'a permis de retrouver ma mission première, qui est l'animation juridique. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est très bien. Bonne nouvelle. Donc,
tout ça au profit des familles. Et donc, la cible, c'est qui exactement? C'est les parents? Parce que quand vous parlez famille, c'est vous adressez pas aux enfants quand même.
Avec le RAM, oui. Non, la cible principale, c'est la personne qui a besoin d'une information quelconque, d'être réorientée. Je profite d'avoir le CEDIF à côté. Quand on a quelqu'un qui a envie d'avoir des informations sur la médiation... On est content de pouvoir réorienter. On va dire le but premier, c'est toute personne qui se retrouve un peu bloquée, a du mal à retrouver face à une certaine situation, qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai que moi, je trouve qu'on a la chance en Lozère d'avoir un maillage associatif intéressant. Je m'en rends vraiment de plus en plus compte grâce au MEX, en faisant les déplacements. Ça m'a permis de rencontrer des gens comme Quoi de Neuf ou... Voilà, et donc le but, c'est ça. C'est moi, j'ai envie de vraiment recréer un vrai maillage.
Alors des réseaux associatifs, ouais, mais qui voilà. Ont aussi des compétences, de vraies compétences professionnelles.
Ben oui. Je veux dire
on appelle ça l'économie sociale. Ouais.
Ah oui, et on a fait effectivement une matinale la semaine dernière sur l'économie sociale et solidaire.
Et ma stagiaire, elle est dans le conseil économie et sociale, CESF.
Ah oui, une future conseillère en économie sociale et familiale.
Oui.
Effectivement. Et donc, oui, enfin, globalement, je le vois par rapport aux manières dont on vous interroge, c'est souvent sur des accidents de la vie. Je pense à malheureusement des divorces, sur des choses peut-être encore plus graves où on se retrouve veuf ou veuve et où la dimension juridique. A aussi une dimension extrêmement importante et sur laquelle on a besoin de soutien clairement au moment où ça nous tombe dessus.
Je vais vous dire que c'était effectivement ça, mais là, ça fait 6-7 mois que je ressens une grosse différence, notamment avec l'explosion des chiffres au niveau du PARAS, du pôle d'accueil en réseau, pour l'accès aux droits sociaux. J'ai énormément de questions à ce niveau-là. Tout ce qui est droit social, CMU, donc bon. Tout ça, on réoriente toujours vers la caisse commune. Mais bon, on a des personnes âgées qui, des fois, ont du mal avec une plateforme ou des choses comme ça. Et veulent simplement, des fois, est-ce que je pourrais pas avoir accès? Donc, c'est montrer quelques chiffres et réorienter directement vers la plateforme de la CCSS ou vers la CAF. Voilà, mais on voit arriver des gens que je n'avais jamais vus. Moi, ça fait 4 ans que je suis en poste à l'UDAF. Des catégories, si je peux dire, socio-professionnelles qui vraiment, j'avais jamais vu des gens qui ont une situation pas aisée, mais qui se disent je gagne tant, est-ce que je pourrais pas bénéficier d'une certaine forme d'aide? Oui, c'est ça. Et ça, c'est monté en puissance, mais depuis 6 mois, vraiment, Vous voyez, le service microcrédit, j'ai des gens qui viennent pour des fois pour des soins dentaires ou des choses comme ça.
Est-ce que donc, vous pouvez nous préciser ce service de microcrédit ?
Le microcrédit, c'est très simple. Hein, ça a été signé en partenariat avec un groupe bancaire, donc c'est La Poste. Donc c'est une aide entre 300 et 3000 euros qu'il a pour répondre, on va dire, à une attente pour des personnes qui malheureusement ne peuvent plus souscrire un crédit. Donc c'est ouvert dès les gens qui perçoivent le RSA. Donc vous voyez, le panel est assez ouvert.
Donc là, vous avez négocié en fait un taux par...
Non, le taux, il est à 4%.
C'est à 4%.
Taux, voilà, au niveau du microcrédit. Moi, je le pré-instruis et après, ça part au fichier central à Montpellier qui donnera oui ou non son accord.
En fait, l'intérêt là, du microcrédit, ce n'est pas tant le taux, effectivement, pour que tout le monde comprenne bien. C'est la possibilité d'avoir accès à un crédit alors qu'on a pu, si on passe ça par une banque classique, accès à quelques
c'est des personnes qui n'arrivent pas à avoir de crédit par l'accès au
droit commun classique, à la banque classique.
Et surtout, nous, j'ai eu traité les procédures de rétablissement personnel pour le tribunal. Surtout, ne jamais souscrire un prêt à la consommation. On le répétera jamais assez, mais vraiment, je peux vous promettre que c'est 90 à 95% des dossiers de surendettement. Donc, si on est là, si on est travailleurs sociaux, La Poste, je suis pas là pour faire de la pub, parce qu'il y en a d'autres qui le font, hein, il y a la caisse d'épargne ou des choses comme ça. Il y a des solutions qui existent, n'ayez pas peur, on ne juge pas. S'il est possible, on fera tout pour le mettre en place. Si c'est pas possible, on pourra essayer de trouver d'autres solutions. Mais voilà, vraiment, je tiens les prêts à la consommation. Vraiment, vraiment, non. Surtout pas. C'est catastrophique.
Alors, les établissements de prêts à la consommation, si vous nous entendez, on vous salue bien. Oui. Mais en tout cas, l'UDAF ne vous préconise pas. Et effectivement, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est des prêts à faire avec énormément de précautions.
La difficulté, c'est simplement que les gens se retrouvent à rembourser quelque chose d'irremboursable. Voilà. Donc,
parce que les taux sont extrêmement...
Voilà, vous remboursez les intérêts pendant des années. Donc on a eu un gouvernement qui a essayé de juguler. Ça continue à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'il y a des microcrédits. Il y a une meilleure information face à ces prêts à la consommation, des choses comme ça. Mais voilà. Donc,
puis le taux de remboursement sur les microcrédits est de l'ordre de 99%.
Oui, puis bon, c'est ça, c'est... Vous êtes accompagné par un référent bancaire qui, ça peut arriver un jour, on ne peut pas rembourser un mois, il adaptera. Il y a une assurance qui est souscrite qui coûte 1 euro, vous voyez. Non. Le but,
c'est
le but,
adapté, voilà.
Oui, tout à fait. Mais c'est régi. Ça date, on va dire, ça a été un peu la réforme Lagarde, comme on l'appelle, qui avait mis en avant justement tous ces différents dispositifs pour lutter contre les prêts à la consommation.
Mais les microcrédits, ça existe depuis extrêmement longtemps, parce que ça a été très pratiqué dans les pays en développement, en voie de développement, et extrêmement suivi. Donc c'était des crédits de 10 à une centaine d'euros dans certains pays, c'était très très peu, mais déjà beaucoup pour des familles qui devaient acheter... un triporteur qui devait acheter des pelles, des pioches ou des choses comme ça. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'en France, on fasse aujourd'hui appel au microcrédit, alors qu'on a des structures bancaires qui seraient à même d'avoir une politique, on va dire, un peu plus sociale après s'être gavé pendant des décennies sur le dos.
C'est une question polémique, monsieur Trottoin, que vous posez là.
Un petit peu, parce que si on se fait l'écho de ce qui se passe aujourd'hui. En France, il y a des gens qui prétendent à l'accession à la propriété qui ne peuvent pas y arriver parce que les banques ne jouent plus leur relais. Quoi. Et bon, si on parle du système financier, que les banques sont une forme de poumon de notre société et de notre économie, et si le jour où on en a besoin, elles nous lâchent, alors que le jour où elles ont eu besoin du contribuable, on ne les a pas lâchées. Quoi. Donc je trouve que c'est quand même...
Alors on est au-delà de la polémique, voilà. Là, on est sur la... Ok, merci.
Voilà, c'est sur une vision de la société. moi non, mais moi je défends tout à fait le microcrédit. Je trouve que... Mais de redonner aussi aux banques leur rôle premier du prêt et pas de la spéculation. En tout cas pour la partie qui nous concerne en tant que sociétaire ou que famille. Je parle de ça. Après, ils prennent les risques qu'ils veulent, c'est pas le problème.
Merci.
Merci.
Ça plombe, hein.
Alors, non, mais ouais, bon. Non, mais merci. Nicolas, ah, normalement, pose des questions, mais des fois,
il... Non, mais j'ai l'habitude, là. Je le pratique régulièrement.
En tout cas, on aime aussi, nous, ces interventions et qui nous permettent de reposer les choses à leur juste valeur. Monsieur Vidal, Romain, comment on fait pour vous contacter? Comment on fait pour avoir accès à tous vos services?
Bon, déjà, si vous voulez des informations, c'est assez simple. Donc, il faut faire udaf48.fr. Vous aurez toutes les informations sur notre site internet. Après, sinon, je suis joignable par téléphone au 04 66 65 79 87.
Ah, ça a été dur, hein, c'est un piège.
Tu peux
ça,
le redire, hein, un petit peu, là?
Tu peux pas le refaire? Alexia, est-ce que vous pouvez nous donner le numéro de téléphone de l'UDAF? Non, Alexia est en panique, elle ne connaît pas le numéro de téléphone de l'UDAF. On le répète.
Non, mais elle est très bien, Alexia. Laissez-la tranquille, soyez gentille. La pauvre, elle est en stage. Déjà, elle passe la journée avec moi, alors imaginez.
On imagine très bien.
Et après, on a une adresse mail, hein, udaf48@wanadoo avec deux O.fr.
Voilà, donc
l'UDAF qui fait un gros travail, hein, voilà, de soutien aux familles,
notamment effectivement sur la
et de réorientation aussi.
Sur non, mon premier, c'est ça, voilà, la réorientation. Vraiment, quand on arrive, on se dit, je sors de la fac de droit, je vais révolutionner le monde, je connais tout. Oh là là, en un an, on a vite compris et il faut s'appuyer. C'est facile. Vous prenez sur pas du logement, je m'embête plus. Et oui, bonjour, il y a Madame Coste, elle est formidable. Allez à la DIL, vous voulez de la médiation, il y a le CEDIF, le droit des femmes, le CEDIF est là. Quand on est sur Flora, qu'on a des problèmes, des gens qui sont dans certaines situations, vous avez quoi de neuf? Vous avez la Croix-Rouge, vous avez... Voilà, bon. Moi, mon but, il est là. Et si on arrive à faire ça, que tout le monde se retrouve connecté, la personne qui souhaite avoir le service, sera l'usager, hein, si on peut dire, sera gagnante, et nous aussi. Hein, parce que ça va vite de dire des bêtises ou de mal réorienter. Voilà.
Donc on tape à la bonne porte et l'UDAF nous aide à taper aux bonnes portes.
J'espère.
Merci beaucoup.
Merci.
De rien, merci à vous.
Une petite coupure musicale avant de
recommencer notre deuxième partie. Pardon, excusez-moi parce qu'on n'était pas préparé à cette question. Et donc on va enchaîner avec Valérie Lucas qui viendra nous parler pour le CIDF des violences conjugales.
Voilà, à tout de suite avec 4 Sons 3.
I'm going to Wichita.
48 FM Le Mag.
Voilà, de nouveau pour cette deuxième partie du magazine, donc comme annoncé avec Valérie Ducas, qui vient nous parler donc pour le CIDF d'un sujet qui n'est pas forcément rigolo ni léger,
facile, ouais,
qu'on va essayer de traiter le plus sérieusement possible et avec son actualité, et notamment effectivement hier il y avait une conférence de presse qui était donnée par votre présidente et le préfet, si nos informations sont bonnes, et si vous avez bien écouté d'ailleurs les informations de Ludovic sur 48FM, vous en avez déjà entendu parler, mais on se permet de faire un point un peu plus important aujourd'hui, vu l'importance du sujet. Valérie Ducas, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement de quoi il s'agit avec ce plan triennal ?
Donc la présentation effectivement du quatrième plan de lutte contre les violences faites aux femmes, hein, puisqu'il s'agit d'un nouveau plan qui prend le relais et la suite des trois premiers plans qui fixent les orientations du gouvernement en termes de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc la nouveauté dans ce plan, je pense que monsieur le préfet l'a indiqué hier, c'est que les violences faites aux femmes sont reconnues comme un phénomène, enfin un problème de santé publique. Hein. Donc c'est quelque chose de nouveau, hein, même si c'était une priorité, la question de l'égalité homme-femme est une priorité et se retrouve de manière très transversale dans l'ensemble des politiques. Pour le coup, les questions de violence conjugale sont devenues un problème reconnu de santé publique.
Parce qu'on ne le répète pas assez, mais il y a quand même une femme qui meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours. Donc, il y a une campagne de pub actuellement. Hein,
la campagne, vous aurez peut-être tous vu le spot donc, qui est diffusé depuis vendredi dernier sur un petit spot de 30 secondes diffusé sur les violences pour effectivement libérer la parole, sensibiliser le public, les victimes et les professionnels, hein, quels qu'ils soient, notamment les professionnels de santé, hein, par le biais de la priorité de santé publique, les gendarmes, les travailleurs sociaux, les commissariats, les enseignants, toute personne ayant un contact avec une victime de violence conjugale.
Alors, c'est des violences qui peuvent être physiques, mais qui peuvent être aussi intellectuelles, enfin...
Alors, les morale. Violences ont différentes formes. Hein. Elles sont présentes dans tous les milieux sociaux, dans toutes les sphères, dans tous les milieux géographiques. Elles n'ont pas de limites, malheureusement.
Aucune
elles
frontière,
ont différentes, ouais. Différentes formes. Donc, effectivement, on connaît la violence physique qui est souvent plus facile à prouver. Hein. Les victimes nous le disent souvent. Je préférerais être battue. Au moins, je pourrais certifier être victime. Mais elles sont souvent au préalable victimes de violences psychologiques, verbales, économiques, hein, privations. Certaines ne peuvent travailler librement, accéder à une profession, évoluer parce qu'elles sont sous l'emprise d'un conjoint qui les menotte financièrement.
Ouais.
Hein. Ouais. Les victimes expriment souvent en fait le préalable des violences psychologiques, verbales, injures, humiliations avant les violences physiques.
En termes du coup de prévention, comment est-ce que vous travaillez sur ce... Parce que là, on voit bien qu'il y a une difficulté, notamment sur ces violences, c'est qu'il y a énormément de femmes qui ne déclarent pas les violences.
Effectivement, je crois qu'il n'y a que 2 victimes sur 10 qui déposent plainte. Hein.
C'est déjà énorme les chiffres, mais c'est
2 victimes sur 10, sachant que c'est celles qui sont connues. Celles qui ne sont pas connues n'ont pas été forcément chiffrées. Donc hier, monsieur le préfet a présenté un nouvel outil. Parce que l'idée, Romain Vidal tout à l'heure parlait d'un réseau, là aussi pour la prise en charge des femmes victimes de violences, c'est vraiment le réseau qui fera effet, notamment travailleurs sociaux, forces de l'ordre, travailleurs associatifs, pour tribunal, pour cette prise en charge, pour diagnostiquer, pour aider les victimes à parler. Et il est mis en place un coupon violence. L'idée étant en fait que lorsqu'une un gendarme ou un policier reçoit une victime qui n'est pas enclin encore à déposer plainte, pas prête à déposer plainte pour X raisons, elle puisse être réorientée vers le CIDF qui sera un lieu d'écoute non institutionnalisée, hein, où on essaye d'amener la personne à être en confiance, à pouvoir libérer sa parole, pour pouvoir lui donner une première information, l'orienter et éventuellement l'accompagner vers une démarche de plainte. Donc on sait que l'écoute, le premier accueil et l'écoute sont des éléments essentiels en fait dans la transcription des faits et le dépôt de plainte.
Du coup là, effectivement, il y a un partenariat avec la gendarmerie donc, et police.
Voilà.
Sur, au moment où eux, ils sont alertés.
En réception de public.
Et donc vous assurez le lien.
On essaiera de recontacter si la victime a donné son consentement. Hein. Donc là, le but, c'est que la victime reçue en commissariat ou à gendarmerie puisse donner son consentement à être recontactée par le CIDF, hein, parce que souvent, on a des déperditions. Hein, la victime peut se présenter et puis après revient retirer sa plainte si elle avait déposé plainte ou elle renoue, on pourrait dire, avec l'auteur des faits, parce qu'on sait qu'il existe un cycle de la violence. Hein, donc l'auteur réamorçant une inconscience peut-être, et l'auteur réamorçant en fait ce qu'on appelle une phase de lune de miel. Hein, il est un cycle vraiment bien décrit par les experts. Donc la victime ne se sentant peut-être plus victime, hein, renouant avec l'auteur, elle interrompt sa démarche de dénoncer des faits de violence, etc. Donc il faut réamorcer une prise de contact, expliquer, réexpliquer.
Je pense que c'est compliqué aussi de faire la démarche, d'aller au commissariat pour témoigner face à quelqu'un qu'on ne connaît pas, comme ça, de façon... le regard que porte aujourd'hui la société, c'est souvent ce qu'on entend chez ces femmes qui n'osent pas témoigner, c'est le regard qu'on porte sur elles.
Oui, et puis ces femmes ont une telle... elles n'ont plus d'estime pour elles. Il y a de la culpabilité. C'est aussi un échec, peut-être. Certaines le conçoivent comme un échec personnel, un échec de couple, un échec de famille. C'est aussi, puisqu'elles sont dans la culpabilité, se demander est-ce qu'on va me croire. Donc c'est là aussi où le CIDF, les travailleurs sociaux ont un rôle à jouer pour avoir un travail d'écoute, toujours dans l'empathie, hein, puisqu'il est essentiel aussi de dire qu'on ne va pas se substituer aux victimes. On va leur donner une information, on va les orienter, mais on ne pourra pas décider pour elles, on ne pourra pas déposer plainte pour elles, mais on pourra leur donner les outils pour s'en sortir.
Est-ce qu'il y a une formation maintenant auprès de la gendarmerie, enfin, est-ce que les gendarmes ou les policiers sont formés maintenant à ça ou pas du tout?
Alors, on travaille, hein, en partenariat notamment avec le groupement de gendarmerie où on est intervenu sur des demi-journées de travail avec des référents violences qui sont mis en place au sein du groupement de gendarmerie. Là aussi, le groupement souhaitait que les gendarmes puissent se saisir au mieux et accompagner et accueillir au mieux les personnes. Donc, on a des réunions régulières.
Il y a la création d'intervenants, c'est ça ? Intervenants sociaux.
Oui, alors pour la Lozère, je ne sais pas si ça sera possible, puisqu'on est sur un petit département avec un seul commissariat. Donc, c'est une orientation nationale.
Parce qu'ils annoncent 350 personnes, c'est ça ?
Effectivement, ces référents et ces intervenants sociaux existent dans certains commissariats. Hein. Par exemple, sur Perpignan, le CIDF... de Perpignan travaille avec un travailleur social intervenant sur le commissariat de Perpignan. Pour la Lozère, en fait, on a d'autres dispositifs qui sont venus pallier à ces...
À ces mesures, oui.
Oui, à ces mesures, notamment sur l'accueil de jour qui est en place au CIDF depuis un an, avec la mise en place, donc, dès ce mois de novembre, d'un hébergement pour femmes victimes de violences, hein, qui vient compléter le dispositif actuel sur le département. Voilà, on essaye aussi de s'adapter. Il y a les orientations nationales et puis il y a le contexte départemental.
Alors, tout à l'heure, on parlait de prévention. Je crois que vous travaillez aussi avec les plus jeunes, donc là où on est vraiment en amont. Alors en tout cas, on l'espère, en amont des violences et de la sensibilisation.
Sur l'éducation. Hein.
Ouais. Effectivement, bon, ça c'était un axe, hein, notamment du troisième plan de lutte contre les violences, la prévention. Au niveau du CIDF, donc, le conseil d'administration a souhaité aussi se rapprocher des jeunes, hein, depuis quelques années, avec une action donc, toujours autour de la journée du 25 novembre, où on intervient. Donc, pour cette année, on est intervenu hier au lycée Olecta de la Canourgue, au lycée Pays Tavin. Aujourd'hui, on est sur une classe au lycée Chaptal. On est aussi au lycée Terre Nouvelle cet après-midi. où on amène les jeunes à appréhender cette question des violences, hein, puisque c'est une réalité. Et à 15, 16 ou 17, 18 ans, c'est peut-être des choses qu'on n'a pas encore pu toucher, à moins qu'on ait été témoin ou que l'on connaisse un proche ou une proche victime. Et donc, on utilise le moyen de lecture extraite de romans, de témoignages divers. Et ce sont Brigitte Bory, donc, qui est connue auprès de la petite enfance, des personnes
association
âgées.
Association Conte-Lico.
Non, c'est non l'association L'Arbre, Les Maudits.
Ah, les
et
Maudits,
Patricia
d'accord.
Grimm, qui est aussi donc, sur le sud de Lozère avec l'association L'Arbre à Pain, qui lise à deux voix en fait, des textes. Donc, ce qui amène les jeunes à se concentrer sur les mots qui leur sont amenés. Volontairement, on n'utilise pas l'image. On veut qu'ils se saisissent en fait, des mots et qu'ils puissent amener, construire eux-mêmes leur définition de ce que peut être la violence, avec des débats, des explications de textes, et ce qui est très intéressant et très bien perçu par les jeunes.
D'accord, on a une bonne participation des jeunes sur ces
On a une bonne participation. Hier, on était sur des classes exclusivement masculines.
Ah oui.
Oui, donc ce qui était très intéressant. Hein. Et puis, on a une démarche aussi.
Et quel regard ils ont, les jeunes, là-dessus?
Moi, je les ai
ils
trouvés
sont de
très
ça,
attentifs.
Peu, ouais.
Je pense qu'ils sont déjà conscients de la violence, mais ils ne sont pas conscients de l'extrême de cette violence, qu'on puisse en mourir. Quand on parle de l'excision, ils savent parce que c'est forcément, quand on dit que le viol, ça peut être une arme de guerre, ou quand on leur donne des chiffres sur une femme est violée toutes les 8 minutes en France, c'est des choses
oui,
qui
leur
des
peur.
Chocs, ça
ouais.
leur fait peur. Donc,
en même temps, voilà. Ils voient ça avec beaucoup de recul. Ils ne se sentent pas forcément, eux, responsables de ça enfin, pas,
Non, bah, l'idée,
ce
n'est pas,
le
de,
pas
les de les responsabiliser de quelque chose que ce soit. C'est de changer les comportements, de leur expliquer aussi. C'est aussi l'occasion de leur expliquer l'origine des violences, pourquoi elles existent, les questions
que
d'égalité homme-femme, ouais. la construction sociale.
Est-ce que ça ne part pas d'un regard un peu sexiste qu'on a? C'est-à-dire que moi, j'entends comme ça, en discutant avec des jeunes, ne serait-ce que l'autre soir, lors d'un concert, des remarques, quoi. Donne pas la carte bleue à une femme, t'es fou. Par exemple, des choses comme ça
oui.
qui se disent entre garçons, ou des blagues sur des filles qui sont liées à un regard qu'on a très sexiste. Sur le rapport qu'on a aux femmes. Et en fait, ça commence par ça. Même si c'est une petite blague qui n'a pas d'effet, on se construit avec ça, on véhicule cette idéologie-là. Et du coup, à un moment donné, ben, on peut avoir aussi un comportement qui est lié à ça, puisqu'on a blagué, on en a parlé, et que quelque part, on se retrouve derrière une revendication masculine qui est extrêmement sexiste. Est-ce que c'est parce que... D'ailleurs, c'est un parallèle que je fais avec le racisme, mais je pense que quand on regarde la société à travers le sexe ou à travers la race, on se trompe d'un regard et qu'on construit comme ça des tabous ou des choses...
Effectivement, le regard est loin d'être neutre. Hein. Il suffit que tout à chacun, hein, jeune, moins jeune, que l'on s'observe dans son quotidien sur la répartition des rôles dans la famille, sur effectivement les remarques qui peuvent fuser à droite à gauche... les regards qui peuvent être portés sur un homme ou sur une femme dans la rue, effectivement, ce sont des choses qui expliquent certains comportements. On peut aussi faire référence à l'image dans les médias. Hein. Hier, avec les jeunes, on travaillait sur la question de l'image dans les médias. Certains citaient les clips, donc je serais incapable de redire le nom d'un clip qui a été cité, où effectivement, on peut voir un chanteur entouré d'une dizaine de filles super sexy. Donc
langoureuse, etc.
Peu habillée.
Le rapport.
Jason Derulo.
À la domination.
Merci Romain, il doit regarder les clips vidéo le matin.
Ouais. Branché voilà. Musique.
Non, c'est vrai qu'il est, il est costaud celui-là. Ouais.
Et effectivement, quand vous interrogez les jeunes sur les pubs
c'est
dans
pas choquant,
les journaux,
quoi.
Quand on voit une voiture, pour vendre une voiture, on l'accompagne forcément.
Bah, le salon de l'auto.
Super
hein,
fille, le salon de l'auto. Voilà. Hein. Donc c'est effectivement, ça éveille la critique des jeunes et c'est super intéressant.
Mais vous n'avez pas le sentiment qu'il faut le prendre beaucoup plus tôt parce que, en disant ça, en même temps, je m'aperçois que dans la réforme des rythmes scolaires qui est proposée par Vincent Peillon, il y a des associations qui interviennent un peu partout en France sur l'égalité filles-garçons.
L'égalité de l'égalité.
Alors ça ne s'appelle pas l'égalité homme-femme, mais voilà. égalité filles-garçons. Et je trouve que c'est une bonne démarche, très jeune, de faire comprendre aux enfants qu'on peut être, qu'on n'a pas le même sexe, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas égaux, en tout cas qu'on n'a pas un respect mutuel à avoir. Je crois que ça se construit très très jeune, en fait.
Ça se construit très jeune, dans les livres scolaires, dans les manuels, dans les catalogues de jouets. On arrive à Noël, donc vous aurez peut-être tous identifié le catalogue de jouets Hyper-U, qui d'ailleurs a priori a fait discuter, parce qu'il y a un forum que je n'ai pas, sur lequel je ne suis pas allée, qui critique en fait ce catalogue de jouets, qui a, je dirais, asexué les jouets, puisqu'on voit une fille derrière une pelleteuse, un petit garçon derrière une cuisine. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir sur certaines enseignes. Donc, effectivement, on a pu en discuter aussi hier avec les jeunes qui trouvaient ça totalement normal de pouvoir choisir un jouet et de ne pas être orienté dans ces jouets, avec l'impact que ça peut avoir derrière sur l'orientation scolaire, sur l'orientation professionnelle, le regard sexiste. Forcément, mettre une fille sur un quad rose, voilà.
Mais on le voit bien, ce catalogue, c'est un excellent exemple. Il se pose comme encore un catalogue décalé. Alors certes, on espère qu'on en verra plus, mais il a quand même réussi à faire scandale
sur
certains forums. Donc on est...
Et les réponses sur le forum, c'était quoi ?
Sont choquées par le fait, le volet asexué, et notamment sur le fait que ça pouvait choquer que des petits garçons jouent à la poupée et que des filles... joue aux outils. Alors, on retombe sur des
héritages judéo-chrétiens.
Des débats sur les valeurs, le genre, les multigenres, les plurigenres. Donc, c'est effectivement, on n'est plus sur un débat sur l'égalité homme-femme, mais sur les repères. Est-ce que le fait qu'un petit garçon joue à la cuisine ou qu'une fille soit derrière une grue, est-ce que ça trahit les repères sociaux, les valeurs sociales, le mariage hétéro, le mariage pour tous, voilà, je pense qu'il y a, il y a certaines inquiétudes, effectivement, l'ABCD de l'égalité n'est qu'en expérimentation, c'est pas valable dans toutes les écoles, et c'est une question délicate.
Donc il reste du travail pour le CIDF sur cette question-là,
je crois qu'il reste
et
du travail.
Un numéro quand même important, le 3919.
Oui, effectivement, sur les violences, donc toute personne qui s'estime victime de violence, quelle qu'elle soit, l'injure, l'humiliation sont déjà des violences, donc de ne pas rester isolée, puisqu'effectivement, les victimes se sentent souvent isolées. Donc, si elles appréhendent la rencontre physique avec un professionnel, il y a un numéro, le 3919, qui est gratuit, et qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Ouais, qui est déjà effectivement une première démarche, peut-être la plus facile, puisqu'on reste
anonyme
et on est avec une relation qui est quand même plus facile, puisqu'on est au téléphone. Et donc, l'étape suivante, c'est peut-être de rencontrer les professionnels du CIDF,
qui est
là aussi une écoute, pour le coup, plus simple,
plus
peut-être que personnalisée, mais encore... un intermédiaire entre peut-être le téléphone et le commissariat, où on peut justement être accompagné et prendre le temps de poser les choses tranquillement.
Tout à fait.
Parce qu'on, encore une fois, on ne le répétera jamais assez, mais on est tous concernés et c'est vraiment important de pouvoir ne pas se sentir isolé dans cette situation et de pouvoir venir en parler le plus vite possible avant que ce soit trop tard.
Voilà, ce soir aussi, dire qu'il y a la lecture... De
c'était hier, c'était bien hier.
Ah,
voilà.
Moi j'avais
parti sur le petit mardi.
Effectivement, le conseil régional a organisé hier à la maison de la région
une lecture
des monologues du vagin. Qui était très sympa, très animé.
Par cinq femmes ?
Par quatre femmes.
Quatre femmes.
Parce qu'il en manquait une.
D'accord. Bon, c'est ce que vous avez loupé.
Trop féminine l'assemblée, mais il y avait quand même quelques hommes.
Bon, il faut qu'on travaille à pouvoir être en égalité et être tous concernés.
En tout cas, nous, sur cette radio, on est en égalité. C'est-à-dire,
aujourd'hui, on est à une belle égalité.
Une belle aparté. Et c'est aussi, on lance aussi un appel. à toutes ces jeunes femmes ou toutes ces femmes en général qui ont envie de participer à la radio, de monter des émissions, de se lancer, hein, de faire parler d'elles ou de leurs idées, de leurs émois, de leurs coups de cœur, de ce qu'elles veulent. Parce que cette antenne est une antenne pluraliste et très ouverte. Voilà.
Absolument. On enchaîne avant notre troisième et dernière partie par un petit morceau de musique que Nicolas va nous lancer. Et tu nous annonces quoi, Nico ? Oh là là, il sait même pas ce qu'il nous balance. Eh ben, découvert.
Anaïs Kael qui était venue à 48e de rue il y a 3 ans. 2 ans, voilà.
FM Le Mag.
Voilà pour cette troisième partie, donc avec Monique Akmel Bourgade, qui travaille à l'hôpital et qui vient nous parler de la sécurité des soins dans le cadre de l'association La PEPS. Est-ce que Monique, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette association et je crois la semaine dans laquelle vous vous inscrivez.
Oui, bonjour à tous. Donc l'association PEPS, qui est l'association pour la promotion de l'évaluation des pratiques et de la sécurité des soins, agit depuis quelques années avec surtout comme thématique de communiquer par rapport à ce qui est fait en termes de sécurisation des soins et d'amélioration de la qualité pour les patients. Donc nous avons plusieurs actions. Il y a une paire d'années, on avait fait une journée régionale en ville où M. Trottoin nous avait aidé sur la logistique.
Il est très fort sur la logistique, M. Trottoin.
Nous organisons des journées parfois à l'adresse des professionnels pour pouvoir aussi les réinterroger sur leurs pratiques professionnelles. Donc avec, entre autres, une chambre des horreurs, qui est en fait une chambre des erreurs pour lesquelles nous avons été primés. Et là, l'association intervient pour, dans le cadre de la semaine sécurité des patients, qui est organisée au niveau national par le ministère. C'est la troisième édition. Donc, la semaine sécurité des patients a vraiment pour objectif de communiquer avec les usagers et c'est un dialogue entre les usagers et les professionnels.
Alors effectivement, moi j'ai relevé une petite phrase qui m'a interpellé, c'est « la population est un acteur de la sécurité, tout comme nous ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que quand on vient à l'hôpital, on est tout autant concerné que vous?
Oh, oui,
et qu'est-ce que vous attendez de la population?
Même davantage, donc on attend du patient qu'il nous transmette des informations relatives à ses antécédents, à son traitement, mais aussi transmettre son consentement, ses volontés. Donc là, on peut imaginer tout ce qui est soins palliatifs, fin de vie, les directives anticipées. Et c'est vraiment être acteur de ces soins. Donc là, cette année, il y a des thématiques qui sont bien déterminées chaque année lors de la semaine sécurité des soins. Donc cette année, ça se repose sur trois thèmes qui sont de bien utiliser les médicaments parce qu'on sait que trop de médicaments peuvent induire d'autres difficultés, d'autres problèmes, ce qu'on appelle la iatrogénie médicamenteuse.
Oula. Et moi, je connaissais l'automédication et vous appelez ça l'automédication.
Alors ça, c'est encore autre chose. Certains patients, je pense à une population âgée, qui voient plusieurs spécialistes, ont plusieurs ordonnances et donc cumulent des traitements.
Ah d'accord.
Qui ne sont pas forcément cumulables.
Ils peuvent être antagonistes, absolument. D'accord. Et puis, trop de médicaments ne favorisent pas non plus... la récupération.
Mais pourquoi aller voir plusieurs médecins alors pour avoir plusieurs avis et donc plusieurs
ordonnances. C'est plusieurs spécialistes
plusieurs pathologies.
Aussi.
Vous pouvez avoir un problème cardiaque et après avoir un problème pulmonaire ou neurologique et vous avez aussi votre médecin traitant.
Bien sûr.
Et donc après.
Mais il n'y a pas la coordination. On parle maintenant de médecins et de coordination des traitements. Ça existe ça quand même ce protocole.
Alors ça existe quand les patients rentrent dans le domaine de l'hospitalisation. Oui. Effectivement, on fait un bilan de l'ensemble des traitements et ne sont conservés que les médicaments qui sont absolument indispensables pour l'amélioration de l'état du patient. D'accord. Donc parfois il y a certains traitements qui sont parfois pris depuis des années, je pense aux somnifères, et donc ils sont
par habitude, ouais.
Voilà, qui sont éliminés. Alors là, je suis pas médecin, donc c'est aussi c'est le constat en qualité de professionnel. Donc il est fait un bilan du traitement du patient. Donc là, ça c'est un premier thème sur le bien utiliser les médicaments, mais c'est aussi ce qu'on a dans la pharmacie. Qu'est-ce qu'on en fait quand on a fini notre traitement? Puisque en France, on a des boîtes de médicaments, on n'a pas le nombre de médicaments par rapport
à la
prescription. Donc, qu'est-ce qu'on fait des médicaments? Ce qui amène à l'automédication derrière.
Tout à fait. Ouais. On garde des médicaments, on dit tiens, j'ai pris ça la dernière fois pour soigner une angine, je vais la reprendre.
Il n'y a pas une armoire pleine de médicaments chez soi.
C'est vrai qu'en France, je ne sais plus, on disait qu'on utilise un tiers seulement des médicaments qu'on a dans les pharmacies, un truc comme ça. C'est un truc de fou.
Et après, parfois, on ne se rend même plus compte qu'ils sont périmés.
Oui, et puis il y a ça. Et puis on fait de l'automédication avec des médicaments périmés. Ça m'est arrivé. Hein.
Ouais. Voilà. Oui, mais ça, je crois que ça arrive. Ah,
ça, par contre, ça explique bien des choses. Tiens.
On vous a coupé.
On vous fait plein de parenthèses, c'est pas simple.
Hein. Non, c'est pas grave.
Donc vous arrivez à votre deuxième thème, si moi j'ai bien suivi.
Alors, dans ce qui concerne la sécurité des médicaments, il y a aussi la Société française d'anesthésie et réanimation, qui est une société savante, qui a demandé aussi à participer à la semaine de sécurité des patients, justement pour que transmettre aux usagers l'importance de bien donner la liste des médicaments qu'ils prennent pour envisager l'intervention et de pouvoir bien évaluer le risque anesthésique.
C'est voilà. Ça. Donc, le dialogue entre le patient et son médecin traitant au cœur de la sécurité.
Oui, c'est primordial. Voilà, donc le deuxième thème, c'est en fait de favoriser la communication et apprendre de ses erreurs. Donc on en revient un petit peu à un peu la chambre des erreurs qu'on avait montée. Cette année, on a modifié, on a monté un autre atelier qui est en fait un jeu de loi qui est revisité, qui va comprendre différents thèmes et il y a des dés qui seront jetés, il y aura des questions qui seront posées. Donc ça s'adresse à l'ensemble des usagers, mais aussi des professionnels, puisque cette semaine sécurité des patients concerne l'ensemble des acteurs du soin, le patient.
Est-ce que dans la sécurisation du soin, enfin, en vous écoutant, ça me faisait penser à des notions de rapports nouveaux entre les médecins et les patients. C'est-à-dire que souvent, on entend encore, même si je pense qu'il y a eu énormément de progrès de fait, que les patients n'ont pas toujours l'information sur la problématique qui se pose, sur leur maladie, etc. Et que le fait d'être des fois pas considéré comme interlocuteur privilégié par le médecin, ça compliquait le suivi médical ou même le soin, du coup.
Oui.
Est-ce que ça fait partie, ça, justement de...
Oui, ça fait partie de nos objectifs. La loi du 4 mars 2002 sur les droits du patient a quand même nettement amélioré les informations, le droit au consentement. Donc, il y a quand même eu énormément de progrès de fait.
Mais ces lois ne sont pas forcément très, très connues par le grand public.
Non, mais il y a des procédures, on imagine, qui se sont mises en place.
Il y a la charte du patient hospitalisé. Il y a eu quand même énormément. Et nous avons quand même des représentants des usagers au niveau institutionnel qui, eux, sont le relais de la communication. Et ils participent à la semaine sécurité des patients. Donc, ils répondent. Ils sont des pairs avec les usagers. Ils peuvent répondre de ce qui est fait ou de ce qui est possible d'avoir comme information. L'accès au dossier du patient, maintenant, c'est quand même quelque chose qui est...
Et ça, c'est enseigné en médecine ou pas?
Alors, il y a eu des progrès de fait au niveau des formations médicales.
On sent une question un peu taquine, monsieur Trottoin.
Si de plus en plus... Et on développe aussi tout ce qui est concertation pluridisciplinaire, c'est-à-dire que dans certains domaines, en particulier en cancérologie, toutes les décisions thérapeutiques médicales sont prises en réunion pluridisciplinaire. Donc, il n'y a plus une seule personne qui est décisionnaire, en fait. Et le patient est informé, il a tout son plan personnalisé de soins, des informations concernant tous les soins de support, toutes les informations pour qu'il prenne en charge sa pathologie dans les meilleures conditions possibles. Voilà.
Ah, ça t'a cloué le bec quand même. Hein. Donc on voit bien qu'on a un dialogue qui essaye de s'instaurer. Ah ouais, je suis là pour faire des commentaires nuls. j'essaye de rester poli. Donc on voit bien qu'on a au cœur de la sécurité, hein, encore une fois, ce dialogue à la fois le médecin qui doit apprendre à mieux informer son patient et le patient qui ne doit pas venir là.
Il ne doit pas rester passif, en fait.
Pas rester passif et être
actif
acteur, hein.
Dans ses soins.
Oui, c'est ça. Absolument.
Mais jouer le jeu aussi avec le médecin, bien tout déclarer, tout ce qu'il prend.
Oui. Oui, et puis après, les informations, ça va au-delà, puisqu'on sait que dans les hôpitaux, il y a des événements indésirables qui peuvent survenir. Donc là aussi, on a des ateliers, des stands pour. Montrer qu'est-ce qu'il est fait pour essayer de pallier ces événements indésirables ou ces presque accidents. Et en détail, avec la participation des représentants des usagers, ce qu'on appelle l'analyse des causes, c'est-à-dire tel événement est survenu et on va chercher pourquoi. Est-ce que c'est dû à une erreur humaine? Est-ce que c'est dû à une erreur matérielle? Est-ce que c'est dû à une erreur logistique? Donc on détaille, on décortique et après on met des actions d'amélioration en place. Pour éviter que le même accident ou même événement indésirable ne survienne à nouveau. Donc, c'est vraiment une transparence et une ouverture.
On tire des enseignements de nos erreurs, quoi.
Exactement. Mais c'est vraiment l'apprentissage par les erreurs. C'est quelque chose dans le secteur de l'humain qui, à mon avis, est vraiment extrêmement important et c'est très pédagogique. Voilà.
On a un troisième volet.
On a un troisième thème qui concerne la sortie du patient hospitalisé. Donc là où nous allons avoir d'autres intervenants extérieurs à l'hôpital, puisque nous travaillons aussi en relais en ville-hôpital. Le patient, quand il sort de l'hôpital, il rentre chez lui et il est pris en charge par des professionnels libéraux. Donc là aussi, il y aura un stand avec des professionnels libéraux infirmiers sur comment ils prennent en charge ensuite le patient. Il y aura également le service social, puisqu'on peut demander à ce que soient mis en place des prestations quand les patients ne sont pas totalement rétablis à la sortie de leur domicile. Donc les assistantes sociales vont aussi participer. Et puis, il y aura d'autres stands qui sortent des thèmes qui ont été préconisés, où il va y avoir des ateliers hygiène des mains, parce qu'on voit on doit avoir zéro bijou pour éviter d'avoir des infections manuportées. Et il a été demandé à des enfants des écoles de construire des œuvres d'art et des dessins sur le thème de l'hygiène des mains. Donc, il y a eu des écoles demandent de Aumont et du Monastier qui ont participé. Et toutes ces œuvres sont exposées à la maison de retraite depuis maintenant une dizaine de jours, où tous les participants aux journées de la semaine de sécurité des patients et même en dehors votent pour élire les œuvres les plus exceptionnelles ou les plus qui les ont interpellées ou frappées. Et il y aura un prix qui sera remis à ces écoles-là par un résident de la maison de retraite, parce que ces journées-là, cette année, se déroulent à l'EHPAD de Châtelet-Coste. Donc, là aussi, il y aura une participation des résidents et des familles de résidents. Donc, l'assistante qualité qui a organisé ce concours d'œuvres remettra aux écoles qui ont été primées, avec un résident, des lots pour les remercier du travail qu'ils ont accompli. Donc, c'est aussi le lien intergénérationnel qu'on retrouve là, entre les jeunes et les personnes.
Les enfants qui ont participé, les personnes âgées.
Qui ont animé à la maison de retraite lorsqu'ils sont venus remettre leurs œuvres.
Autour des mains sales, quand même. Des mains sales.
Autour des mains, oui.
Ça pose.
Ouais.
Jean-Paul Sartre.
Hein, bravo. Merci Nicolas de ne pas me laisser seul dans mes mauvaises blagues et de pouvoir enchaîner.
Brillant culturellement.
Il y a plein d'autres choses, la semaine de sécurité des patients. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers, puisque c'est aussi à l'adresse des professionnels. Donc, il y a des ateliers toucher massage, il y a des ateliers relaxation pour adultes.
Ah, ça commence à être pas voilà. Mal. On se sent plus concerné.
Je vais vous donner le numéro de téléphone auquel vous pouvez vous inscrire.
Et ben voilà.
Et il y a aussi les massages de bébés, donc à l'adresse des nouveau-nés.
Moins concerné, là, personnellement. Moi, j'ai donné.
Quoique.
Ludo.
Et moi, j'aime bien ça, masser les bébés.
Et l'atelier sensoriel, donc qui éveille les sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue. Voilà, donc,
alors, on appelle quel numéro de téléphone?
Alors, on appelle le 04 66 49 47 56.
49 47 56.
Voilà. Les ateliers sont ouverts à tout le monde entre 9h et 16h30. Par contre, les ateliers, il y a un nombre de places limitées et des horaires. Donc là, il faut s'inscrire.
C'est le numéro de téléphone de l'hôpital?
C'est le numéro de téléphone de l'assistante qualité qui prend les réservations.
À l'hôpital.
À l'hôpital.
Et ça faudrait par qui les ateliers?
Alors les ateliers
sont... Notamment massage des bébés, par exemple, si je suis intéressé.
Alors, c'est un kiné.
Ah d'accord.
C'est le kiné qui intervient.
Vous fournissez les bébés ou...
C'est ça, toi tu fournis les bébés, tu ne fournis pas le massage.
Il vaut mieux venir avec un bébé.
Oui.
Moi j'en ai pas, mais je suis intéressé.
Tu passes ton tour pour cet atelier, Nico.
Oui.
Tu ne veux pas venir avec moi
pour faire le bébé? Écoute.
Voilà, donc il y a les représentants des usagers, tous les professionnels qui vont animer et les stands et les ateliers, donc interviennent à titre bénévole pour l'association, et vraiment dans l'objectif de s'ouvrir aux usagers, à la ville, sur un niveau d'égalité, puisqu'on n'est plus sur le versant patient-soignant, mais là vraiment sur... Un échange
entre... Alors, j'ai envie de dire aussi entre futurs patients. On n'est pas obligé d'être malade pour venir à vos ateliers.
Non.
C'est même autant venir en prévention ou voilà, en tout cas en ouverture.
Disons qu'il
ne faut
pas être contagieux déjà.
Déjà, ce serait mieux.
Oui.
Déjà, tu te mouches avant d'y aller.
Voilà, mais c'est ouvert,
mais c'est ouvert à tout le monde. Ah, hein, c'était le propos, c'est qu'effectivement, c'est vraiment l'hôpital et de manière générale le corps enseignant qui s'ouvre sur la population et ce qu'on a dit depuis tout à l'heure.
Et si je suis instite, je peux venir avec une classe?
Pardon?
Si je suis instite, par exemple, avec un groupe d'enfants, on peut
s'inscrire
participer ou pas?
Après, ne serait-ce que venir voir toutes les œuvres d'art qui sont quand même assez exceptionnelles, il n'y a pas de souci. C'est au rez-de-chaussée des EHPAD Châtelet-Coste. Il y aura un accueil à partir de demain matin, 9h, le jeudi matin, pardon, jusqu'à vendredi 16h30.
D'accord, donc on redonne le numéro de téléphone pour ceux qui nous écoutent.
Qui est le 04 66 49 47 56.
Et vous tombez sur madame ?
Solène Castan.
Voilà, qui est donc...
L'assistante qualité, qui est une implication forte dans l'organisation.
Oui, bon, on le voit, en tout cas, c'est très très riche. Hein,
oui.
C'est très divers, vous avez bien cerné, je pense, le souci des patients, en tout cas, pour faire en sorte que l'hôpital et les soins répondent au mieux à la préoccupation des gens qui sont malades. Donc oui, c'est bien, c'est bien.
C'est l'objectif, c'est vraiment d'être ouvert et de dialoguer, de communiquer.
De toute façon, on a déjà fait un pas vers le soin, vers le fait qu'on se sente mieux quand on est attendu, quand on connaît les procédures ou quand on sait... C'est une partie des soins.
On parlait tout à l'heure de l'accueil dans le secteur hospitalier, c'est exactement la même chose.
Oui, c'est sûr qu'on a tous de mauvaises expériences plus ou moins anciennes et que c'est vrai qu'il faut les améliorer parce que ça résout énormément de questions et voilà.
On sent l'expérience,
effectivement. Oui, oui. Mais on va tout de suite couper Nico avant d'avoir du vécu.
L'accueil,
c'est
vraiment le premier. Ça fait 50% des choses.
Mais c'est vrai, dans la restauration, c'est vrai partout.
Oui. Dans le commerce, partout.
Oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup.
Madame Akmel Bourgade, merci beaucoup pour ce témoignage. On attend du coup la population et les patients, futurs patients, monsieur et madame tout le monde. À l'hôpital pour pouvoir venir faire ses ateliers, ses expositions. Alors une fois n'est pas coutume, notre ami Guillaume s'incruste dans notre magazine. Il prend ses habitudes.
Ouais, j'aime bien venir vous embêter à la fin du mail.
C'est ça, mais méfie-toi qu'on ne prenne pas la mouche et qu'on ne vienne pas t'embêter dans tes émissions à toi. Mais je t'en prie, Guillaume, passe ton message.
Oui, un petit message. On vous en a déjà parlé il y a quelques semaines, mais maintenant, on rentre dans le concret. C'est que 48FM va déménager dans les tout prochains jours. Donc, il y aura pendant un jour l'arrêt de la diffusion. Il y aura l'arrêt de la diffusion pendant une journée, vraisemblablement la journée où les antennes seront basculées et seront transférées. Mais bon, ça, c'est pas ce qui nous concerne tout de suite. C'est qu'avant le déménagement, il y a des travaux dans nos nouveaux locaux.
Il y a de la peinture.
Voilà. Un peu de parquet aussi.
Il y a du parquet à poncer.
Voilà, tout ça.
Un peu de déco.
Donc on a prévu un peu une petite semaine de travaux. Et ben voilà, 48FM, c'est une radio associative. Donc on voulait aussi lancer cet appel global sur nos ondes.
Et pour l'égalité des chances, en plus, cette radio. Donc, mesdames, n'hésitez pas, le bricolage, vous êtes
ouvert. Nous, on n'est pas du tout sexistes. Le marteau, c'est pour tout le monde. Et voilà.
Voilà, donc ça sera du lundi 2 au samedi 7 décembre. Alors plutôt les fins d'après-midi pour la semaine, hein, à partir de 16h on va dire qu'on commencera à y travailler. Et donc bah voilà, si vous êtes disponible pour nous donner un peu de vos compétences, de votre temps, une soirée, deux soirées, trois soirées ou plus, n'hésitez pas.
On s'occupe des bières.
Pour ceux qui peuvent pas venir mais qui veulent amener de la restauration, il n'y a pas de souci non plus.
Tout à fait, ça peut être une forme
petite aussi tarte, des soins, des massages.
Après les travaux, c'est utile.
Ouais, tout à fait.
Voilà, donc l'appel est lancé. N'hésitez pas à nous contacter donc à la radio au 04 66 31 59 68.
On promet la bonne humeur.
Voilà, il y aura de la bonne humeur. Et je pense que voilà, vous pouvez comme ça prendre une part active à votre radio. Voilà, et puis juste dans les rediffusions. Alors, les nouveaux locaux, ah oui, il faut. Voilà, Valérie.
Merci Valérie.
C'est où?
Alors, c'est où? Ça sera au 10-12 rue des Clapiers. Voilà, donc.
À droite de la pharmacie Boutet, au bas de l'avenue Piancourt, vous prenez la petite rue qui est à droite, là, les anciens locaux de France Télécom.
Vous la prenez à pied, hein, parce qu'elle est censée
être avec la passerelle bleue, en fait, c'est là. Voilà, c'est en fait la Ligue de l'Enseignement qui héberge, qui mutualise des moyens avec plusieurs associations, dont 48FM.
Voilà. Et alors on va simplement dire que samedi vous avez pu suivre une émission en direct avec Gigaranx, donc Ganim et Nico. Elle a été rediffusée hier soir, mais vous pouvez la retrouver sur internet.
La podcastée.
De même pour l'émission sur la parentalité qui est passée hier soir.
Ah ouais, que j'ai écouté,
et qui sera rediffusée. Non, hier midi, pardon. Qui sera rediffusée jeudi à 18h11. Voilà.
En même temps, dire que cette émission spéciale.
Mercredi à 18h11.
Ah, il est paumé.
En oui, même temps, dire que jeudi à 18h11, c'est le mag.
Vous trouverez tout ça sur le site internet.
En même temps, dire que cette émission spéciale qu'on a fait dans le cadre des concerts organisés par la Ville de Mende par rapport à la politique jeunesse, culturelle et jeunesse, a très très bien marché. Il y a beaucoup de jeunes très intéressés. Un groupe magnifique qui après a donné une très belle prestation de concert au théâtre. Et avant, qui a même pu nous faire de beaux témoignages. Donc c'est une opération qu'on va réitérer pour les prochains concerts. Le prochain étant le 8 février, avec 7 matchs. Voilà. Alors les jeunes qui participent en fait peuvent gagner aussi des places gratuites pour le soir. Et puis participer à ce petit moment VIP radiophonique, très sympathique.
Absolument. Guillaume, pas plus ?
Bah, toujours.
Il y a quand même ta casquette de trésorier, là, s'il te plaît.
Oui.
Depuis, si vous voulez profiter de la niche fiscale.
Depuis hier, vous l'entendez
sur nos ondes.
Voilà, si vous voulez vous aussi profiter d'une niche fiscale, faites des dons, n'hésitez pas.
Surtout, vous avez la possibilité d'être un VIP de la niche. Et on vous offre la possibilité de ne pas payer d'impôts à 48 FM.
Avec un bel autocollant après. Ouais. À mettre sur le pare-brise.
Encore merci à 48 FM pour cet acte.
Voilà pour les actus de notre radio. C'est aussi important de faire un peu le point. C'est aussi ça, une radio associative. De temps en temps, il faut parler de ce qui fait en sorte que vous entendez des programmes tout au long de la journée sur nos ondes.
Guillaume, Valérie, Monique, Romain, Nico, merci pour ce magazine. Et à très bientôt.
À bientôt.